titre du journal de la mi-journée.
Le fort de Dailly ouvre de nouvelles portes. Dès l'an prochain, la tourelle numéro 2 pourra être visitée, un espace encore inédit. Découvrez en primeur un reportage dans ses couloirs des fortifications au-dessus de Morcle. Plusieurs cantons romands, dont Vaud, organisent leur journée de recrutement des sapeurs-pompiers le 4 novembre. Celui de Lavey-Morcle-Saint-Maurice en fait partie. Mais qui est visé dans cette recherche de la relève? Réponse du commandant Michael Dave dans ce journal. Nous devrons voter le 28 novembre prochain sur une initiative concernant les juges fédéraux. Notre correspondant à Berne, Serge Jubin, nous présentera les enjeux de cet objet surprenant. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Glasgow pour la COP26. L'objectif, mettre en place des mesures afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré selon l'accord de Paris. En basket, la série de défaites se poursuit pour le BBC Montéchablais en SB League. Et en football, le FC Sion n'a pas su confirmer après son succès face à Servette. Les Valaisans se sont inclinés face à Grasshopper.
La grisaille s'amenuise. Bulletin météo complet en fin de journal. Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour. Montreux prendra des airs de Glasgow les 4 et 5 novembre prochains. Un forum d'innovation organisé par InnoClimat s'y tiendra afin de répondre aux défis climatiques. Cela en marge de la conférence COP26 qui se tiendra en Écosse. L'idée est d'associer différentes professions, des représentants politiques ainsi que Bertrand Piccard, président de Solar Impulse, et Martin Vetterli, président de l'EPFL, seront présents. Le directeur de l'Office fédéral de l'énergie, Benoît Reva, présentera également les objectifs en matière de climat de la Confédération. Le programme complet du forum est à retrouver sur inoclimat.ch.
Plongez dans l'histoire des fortifications en découvrant près de 2 km de fort à Dailly.
Celui qui se trouve au-dessus de village de Morcle compte 20 km de couloir en tout. Jusqu'alors, le public se plongeait dans la galerie Rossignol et découvrait entre autres la tourelle 1. Mais dès mai 2022, les visiteurs pourront pénétrer pour la première fois dans la tourelle numéro 2 et apercevoir notamment un lance-mine inédit du public. Valérie Blom a pu la visiter en primeur, pénétrer avec elle dans ce fort.
On va venir au cantonnement d'abord, et après je suis au grand, là.
Pourquoi on est venu sur la tourelle numéro 2? C'est pour des raisons aussi de confort et de visite, pour qu'on puisse rendre pérenne la visite des tourelles de Saint-Maurice. L'ouvrage qu'on va mettre en service au mois de mai 2022 est en fait sur un seul étage. Il est accessible à des personnes d'un certain âge, sans trop de difficultés. Ce qui n'était pas le cas avec la tourelle numéro 1 qu'on faisait visiter sur la place d'armes de Dailly.
On est 50 mètres sous le canon.
C'est là qu'on préparait la munition. Donc là, on a tout le processus pour la préparation de la munition. Mais on va d'abord commencer dans une salle qui s'appelle le post-calcul de tir. Et là, on se trouve dans une salle qui est en fait le cerveau de toute la fortification. Il faut s'imaginer que si on veut tirer, par exemple, sur une zone comme l'aérodrome de Sion, on a un observateur qui est dans cette région là-bas et qui téléphone au patron qui est ici, qui est le chef du post-calcul de tir, qui est un officier. Après, on trouve trois personnes qui sont des topographes qui vont changer les coordonnées en élément pour le canon. Alors le canon, on peut le régler de plusieurs manières. En élévation, en dérive, on peut régler la durée de vol de l'obus et puis on peut régler la quantité de poudre. Donc il faut s'imaginer que là, sur la droite, on a une sorte de toboggan qui nous permet de descendre le canon. Là, c'est le canon numéro 2. Mais le canon numéro 1 qui est en place, on peut le descendre dans ce toboggan, le prendre sur des palans, l'amener de côté et y faire le service. Et puis ensuite, on prend le canon numéro 2 et on le remonte 50 mètres plus haut. Donc ça, c'est vraiment un élément du patrimoine. J'ai travaillé dans 84 pays à travers le monde. J'ai peut-être été voir dans une cinquantaine de pays les fortress. Et ici, on est vraiment au niveau de la haute ingénierie des années 1960. Et tout est électromécanique. Donc pas de computer. Ouais. Et c'était incroyable. Imaginez voir qu'avec ce canon que vous avez là au pied,
on arrivait à tirer 22 coups de canon de presque 800 kilos d'obus sur une zone comme Orcières. Et là, on est juste dans l'atelier. Ensuite, on va se déplacer dans ce qu'on appelle le laboratoire, c'est où nous préparons les tirs.
Est-ce qu'il y avait l'équivalent un peu plus haut en Valais pour l'école genre du Nufnen ou comme ça, ou bien...
Alors, cet ouvrage ici, il est unique en Suisse et normalement, il était prévu d'en construire 3 autres identiques à celui-ci. Donc, un ouvrage comme ça, ce sont 2 canons. C'est une unité de feu. Donc, là, on en voit un. Il y a un deuxième qui a été construit un peu plus bas à Saint-Maurice. Et il y en a deux qui auraient dû être, 2x2 qui auraient dû être construits au Gothard et 1x2 canons dans la région de Sargans. Seulement, tout cela a été arrêté à cause de l'affaire des Mirages. Et l'affaire des Mirages, tout l'argent a été enlevé des fortifications pour le financement des Mirages.
Qui veulent découvrir le lance-mine et cette partie des fortifications de Dailly pourront s'inscrire pour une visite sur cipad.ch. Il est également possible de rejoindre la communauté d'intérêt pour l'artillerie de Dailly pour participer au maintien et à la mise en valeur de ce patrimoine. Dès aujourd'hui, la permanence de médiation de l'ordre judiciaire vaudois s'étend. Elle tiendra désormais ses consultations dans les locaux des 4 tribunaux d'arrondissement en alternance, soit également à Nyon, Vevey et Yverdon, le mardi de 9h à 12h. Cette permanence vise à renseigner le public sur le rôle de la médiation comme outil de résolution des conflits.
Enfants, nombreux sont ceux et celles qui ont rêvé de grimper dans un camion de pompiers.
Mais tous ne se lancent pas dans la formation de soldats du feu. Et puisque la plupart des corps de pompiers sont de milice, il est nécessaire d'assurer la relève année après année. Les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et du Jura s'unissent dès lors pour une journée de recrutement le 4 novembre prochain. Le SDIS des fortifications, soit celui de Saint-Maurice-l'Avémorque, y participe. Et son commandant Michael Dave explique au micro de Valérie Blom ce qu'il attend des volontaires.
On vise toute personne qui a de la disponibilité et qui a de la motivation pour justement rendre service à la population. Il y a du travail pour tout le monde, pour tout type de personnes, et vraiment, c'est ouvert à tous.
Il n'y a pas besoin d'avoir des qualités requises, même physiques, parce que c'est vrai que ça peut être assez physique comme travail.
Bien sûr, alors on a quelques tests physiques et tout. Après, comme je dis, il y a une place pour tout le monde. Donc peut-être qu'il y a des faiblesses d'un côté, mais des forces d'un autre côté. Donc on trouvera toujours du travail pour tout le monde.
Et puis les personnes qui sont vraiment intéressées par la mission de pompier, même ce qu'il y a autour, j'imagine ils ont aussi la possibilité d'aller plus loin dans la formation, voire de grader, c'est ça ?
Alors bien sûr, on peut aller loin dans la formation, on peut grader au sein du SDIS, mais après ça peut devenir un métier également. Il y a des corps de sapeurs-pompiers professionnels, donc c'est clair que celui qui est vraiment passionné par ça et que c'est son truc, donc il peut clairement aller faire son métier avec pompier.
Il y a justement plusieurs cantons qui se réunissent pour cette une journée annuelle de recrutement. Pour vous, c'est aussi un avantage parce qu'il y a une communication commune pour éviter que les gens n'entendent pas parler de cette journée, soirée spéciale.
C'est clair que l'effet de masse, c'est un très gros avantage. Et justement, par rapport à ça, ils nous mettent des gros moyens à disposition que nous, on ne pourrait pas obtenir, je pense.
J'imagine qu'il y a pas mal de collaborations, de toute façon, du côté valaisan et vaudois. C'est vraiment un corps qui est vraiment à la frontière.
C'est unique, ouais. C'est un corps que c'est unique par rapport à la collaboration Vaud-Valais. Et puis moi, ce que j'aimerais franchement ajouter, c'est que le recrutement est jeudi prochain, mais toute l'année, on est ouvert et on est là. Si des gens veulent se proposer, se présenter, on est toujours à disposition pour en discuter.
Tous les détails de cette journée sur www.118-info.ch ou sur la page Facebook du SDIS des fortifications. Les personnes diabétiques pourront faire contrôler gratuitement leurs pieds dans toute la Suisse romande. Des consultations seront proposées du 15 au 19 novembre dans plus de 50 lieux spécialement dédiés. Cet examen des pieds permet de connaître le risque de complications, mais aussi de recevoir des conseils adaptés, ainsi que d'être informé sur les potentiels soins à recevoir. L'espérance de vie en Suisse est repartie à la hausse au premier semestre 2021. C'est ce qu'a démontré une étude d'Unisanté parue aujourd'hui. Le taux de mortalité a été plus faible que lors des 6 années précédentes. 2021 est en particulier la 2e année consécutive sans impact visible de la grippe.
Les citoyens suisses sont parfois amenés à voter sur des objets surprenants.
Ce sera le cas le 28 novembre avec une initiative populaire signée par 130 000 personnes qui demande que les juges fédéraux soient désignés par tirage au sort et puissent siéger jusqu'à 70 ans sans passer par les réélections. Les initiants affirment qu'il en va de l'indépendance de la justice. Un seul des 246 parlementaires fédéraux recommande de soutenir l'initiative. Les enjeux avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
Cet unique député favorable à l'élection des 38 juges fédéraux et des 19 suppléants par tirage au sort et l'UDC saint-gallois Lucas Reimann, par 191 voix contre 1 et 44 à 0, le Conseil national et le Conseil des États, tout comme le Conseil fédéral, recommandent de ne pas changer l'actuel système d'élection des juges par l'Assemblée fédérale, avec renouvellement tous les 6 ans, un système qui fonctionne bien, selon la ministre de Justice et Police, Karine Keller-Souter.
Nous avons quand même une très grande qualité de la justice en Suisse. Nous avons des tribunaux qui en général font un très bon travail. Les juges et leur indépendance sont protégés par la Constitution suisse. Ceci, je crois, n'est pas mis en doute, non plus d'ailleurs par la population.
Eh bien si, les initiants doutent de l'indépendance des juges qui doivent être affiliés à un parti politique pour accéder au tribunal fédéral et lui versent ensuite une contribution financière. Le père de l'initiative pour la justice, le riche entrepreneur turgovien retraité Adrian Gasser.
Ce qui me choque encore plus, que c'est les juges fédéraux qu'on a sont prêts à payer à quelqu'un qui n'a pas le droit de toucher de l'argent. Et ils sont aussi bien prêts à se soumettre à une réélection par des partis politiques dont on sait exactement qu'ils ne défendent pas l'intérêt de la séparation des pouvoirs.
Les initiants mettent en avant une affaire de juge mis sous pression, le politologue tessinois Nenad Stejanovic.
Un juge UDC, M. Donzala du canton de Valais, dans une décision importante concernant la banque UBS, il n'a pas voté comme son parti UDC voulait. Et ça a absolument enragé son parti et ils ont menacé de l'expulser. M. Donzala, suite à ce cas, il a donné des déclarations où il a dit que oui, c'est vrai que UDC fait pression sur ses juges. Il les rencontre régulièrement. M. Blocher les invite pour discuter des cas concrets et de voir est-ce que les juges UDC sont vraiment sur la ligne du parti.
Le juge valaisan Yves Donzala, que l'UDC ne voulait pas réélire, a au final été mieux réélu qu'élu en 2015. L'initiative demande donc de tirer au sort les juges fédéraux. Avant cela, une commission d'experts désignée par le Conseil fédéral examinerait les candidatures. Ne pourraient devenir juges que celles et ceux qui ont les compétences professionnelles et personnelles, Adrian Gasser.
C'est pas un système que nous prenons le crayon pointu et poussons là dans le potin téléphonique pour dire celui-là devient juge. C'est un vote qualifié. Il va avoir beaucoup plus de personnes qui vont s'intéresser pour devenir juge, puisqu'ils ne sont plus liés à un parti politique. Il est un fait que c'est une initiative qui n'est pas si simple comme celle des vaches et les cornes.
Le tirage au sort, une fausse bonne idée, selon le Vert Genevois Nicolas Valder.
Il y a derrière cela un juste questionnement sur l'équilibre des pouvoirs, sur l'indépendance de la justice. Par contre, c'est vraiment une mauvaise idée, car le tirage au sort non seulement est contraire à l'esprit de désignation des différents pouvoirs en Suisse, mais en plus comporte de nombreux biais qui font qu'au final, les juges ne seraient plus du tout représentatifs de la population.
Dire que le tirage au sort est un meilleur système que la légitimité démocratique, cet avis, on ne le partage pas.
Karine Keller-Souter qui mène ici une 9e campagne de votation en moins de 3 ans. Les premiers sondages sont peu favorables au tirage au sort des juges. 43% pour, 42% contre et 15% d'indécis. Quand on sait que toutes les initiatives perdent du terrain en cours de campagne, qu'à cela ne tienne, le père du texte, Adrian Gasser, estime avoir une mission à mener au service de la Confédération.
Je me suis fait le serment. Je me permets cette initiative pour rendre service à la Confédération d'avoir des juges indépendants.
Quitte à ce que ça vous coûte une partie de votre fortune?
Oui, pour moi c'est un principe.
Un dossier réalisé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. La validité des certificats Covid des personnes vaccinées en premier expire dans les prochains mois. Actuellement, le certificat est valable pendant 12 mois après la seconde injection. Le ministre de la Santé, Alain Berset, évoque la possibilité d'étendre cette durée à 18 mois. Selon le Fribourgeois, la Suisse est libre de prolonger la validité des certificats pour un usage domestique. Ce qui n'est pas encore clair, c'est si les autres pays accepteraient une telle extension.
Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus aujourd'hui à Glasgow pour l'ouverture de la COP26.
Et parmi eux, Joe Biden, Emmanuel Macron ou encore Guy Parmelin, les participants devront trouver un accord pour mettre en place des mesures afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré selon l'accord de Paris de 2015. À distance, on observe sans optimisme démesuré, car la lutte contre le réchauffement devra se faire dans chaque pays. Celui qui présidera la commission parlementaire du Conseil national pour l'environnement, le libéral radical fribourgeois Jacques Bourgeois, le sait pertinemment.
C'est chaque État qui doit veiller à prendre ses propres mesures pour atteindre ses objectifs. On est dans un enjeu avec ces émissions de CO2, avec ce réchauffement climatique, dans un enjeu global, dans un enjeu mondial, et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Je crois qu'on n'a pas le temps de se regarder en chien de faïence. Je crois qu'il faut agir à l'heure actuelle. Comme le fait la Suisse, un des enjeux de ces deux prochaines années de présidence de la CEAT, ça sera de mettre sous toit cette révision de la loi sur le CO2 après son échec devant le peuple le 13 juin et de revenir avec des mesures incitatives plutôt que punitives.
Pour celui qui a présidé la commission de l'environnement en 2019, le socialiste vaudois Roger Nordmann, même s'il peut apparaître surtout déclamatoire et symbolique, un accord à Glasgow peut déclencher des actions importantes dans les pays.
Le meilleur des scénarios, une espèce d'engagement au moins des pays du G20 et des principaux pays industrialisés pour aller vers l'objectif de 1,5 degré de limitation et puis que ça confirme les efforts internes. On vient de voir en Suisse que c'était pas si facile de décider des mesures à prendre pour y arriver. Et puis souvent on nous dit « Ah ouais, mais il faut que les autres pays le fassent aussi ». Au fond, tous les pays sont confrontés en interne au même problème. Donc si les leaders de ces pays ou les partis de l'accord de Paris confirme cet engagement, ça rend plus facile de prendre les mesures à l'intérieur du pays. On pourrait par exemple avoir comme mesure l'interdiction de la construction de centrales à charbon à l'étranger. Parce que certains pays, on ne construit plus chez eux, mais on construit encore à l'étranger. C'était le cas de la Chine, qui a annoncé avoir renoncé maintenant à ses constructions. Donc si ça se généralisait, ce serait une bonne chose.
Après la réunion de chefs d'État pour l'ouverture de la conférence de Glasgow, les discussions se poursuivront jusqu'au 12 novembre. En plus du président Guy Parmelin, deux autres conseillers fédéraux iront à Glasgow, la ministre de l'Environnement Simonetta Sommaruga et le grand argentier Uli Maurer, mercredi, pour parler finances durables. L'Italie dit adieu à l'inventeur du tiramisu. Ado Campeole est décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Il avait commencé à proposer le célèbre dessert à ses clients dans les années 70 dans son restaurant de Trévise.
Le procureur de la Cour pénale internationale a entamé une visite de 3 jours au Venezuela.
Le pays sud-américain est sous enquête préliminaire pour crimes présumés contre l'humanité. Le Britannique Karim Khan est arrivé à Caracas à l'invitation du gouvernement du président Nicolas Maduro dans le cadre d'une tournée en Amérique latine qu'il avait précédemment conduit en Colombie. Basé à La Haye, aux Pays-Bas, la CPI a ouvert en 2018 une enquête préliminaire sur des violations présumées des droits humains par le gouvernement Maduro, notamment en raison de la violente répression des manifestations antigouvernementales de 2017, au cours desquelles près de 100 personnes sont mortes. L'Australie a rouvert ses frontières aujourd'hui, près de 600 jours après leur fermeture. Le 20 mars 2020, l'immense île continent avait instauré l'une des fermetures des frontières les plus strictes au monde afin de se protéger de la pandémie. Cette réouverture a donné lieu à d'émouvantes scènes de retrouvailles à l'aéroport de Sydney. Des dizaines de milliers d'Australiens vivant à l'étranger se sont retrouvés incapables de rejoindre leur pays natal durant 19 mois. Les vols étaient rares et les ressortissants autorisés à rentrer devaient effectuer une coûteuse quarantaine de 14 jours à l'hôtel. En passant sport, en basket, le ciel s'assombrit un petit peu plus pour le BBC Montéchablais. Les Sangliers n'ont toujours pas décroché leur premier succès en SB League. Hier, un long déplacement était au programme pour aller défier Spinelli Massagno. Face à une équipe qui n'a pas perdu la moindre rencontre cette saison, la formation valaisanne a montré un meilleur visage en début de partie avant de totalement s'effondrer au retour de la pause. Elle s'est finalement inclinée 103 à 70. Si le manque d'expérience d'un jeune effectif montésan a souvent été pointé du doigt, le coach du BBC Montéchablais, Patrick Pembélé, soulève quant à lui une autre problématique.
Un effectif qui manque tout simplement de caractère, en règle générale aussi, il faut plus de cachet. L'inexpérience, ça s'explique. Okay, le sentiment d'abandon que je vois sur certains visages, ça ne s'explique pas. On est compétiteurs et c'est pas grave si on n'a pas d'expérience. Il nous manque, on a la saison pour en engendrer. Et là, le problème, c'est vraiment, dès que ça devient trop dur, on lâche. Alors là, on a moins lâché, mais on lâche quand même.
Les problèmes tactiques ou encore physiques peuvent être réglés via des entraînements et autres séances vidéo. En revanche, le manque de compétitivité est plus compliqué à corriger. Comment va-t-on s'y prendre du côté du BBC Montéchablais ? La réponse de Patrick Pembélé.
On fait des entraînements un peu plus durs, des exercices où justement on a tendance à lâcher un peu et on pointe tout de suite du doigt et discussion, beaucoup de discussion forcément aussi. Maintenant, c'est à eux aussi entre eux de se dire les vérités en face. Pourquoi à un moment donné, on sent que mon coéquipier ne m'aide pas, ne me pousse pas dans ces moments durs. On doit être là pour ça aussi, il nous manque un peu ça.
Une semaine, c'est le temps à disposition de Patrick Pembele pour tenter de remobiliser ses troupes. Le BBC Monté-Chablais Lanterne Rouge accueillera le BBC Nyon samedi à la salle du Reposieux. Ainsi, un sujet signé Ludovic Turin.
En football, le FC Sion a réalisé une bien mauvaise opération au classement de Super League hier.
Opposé au néo-promu Guetze à Tourbillon, il avait l'occasion, en cas de victoire, de se rapprocher de la quatrième place et de regarder vers le haut. Malheureusement pour lui, il a dû s'avouer vaincu pour la deuxième fois en deux matchs face aux Sauterelles cette saison. Comme il y a un mois et demi à Zurich, les Sédunois se sont inclinés 3-1 devant leur public. Conséquence, ils ne comptent désormais plus que 4 points d'avance sur la Lanterne Rouge Lausanne et 2 sur la place de barragiste occupée par Lucerne. Adversaire des Valaisans samedi prochain à la Swissport Arena. Un match à ne surtout pas perdre, comme le reconnaît à demi-mot l'entraîneur du FC Sion, Paolo Tramezzani.
C'est clair que notre place au classement peut nous préoccuper de plus en plus, mais avec mes joueurs, on a pris une décision tous ensemble. On a choisi de ne plus regarder le classement. On se concentre sur notre travail au jour le jour. Évidemment que ce résultat négatif nous déçoit, mais il ne doit pas changer notre manière de fonctionner. On a fait un pacte tous ensemble. On veut faire preuve de plus de continuité pour se sortir en équipe de cette situation. Et en ce sens, le prochain match sera important, mais ils le seront tous d'ici à la fin de la saison.
Malgré la déception du résultat d'hier, Paolo Tramezzani et ses joueurs l'affirment. La confiance est toujours de mise dans le camp valaisan. Écoutez le défenseur sédunois, Nathanaël Saintini.
On n'est pas dernier, donc je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas confiance. On a montré de belles choses sur le match d'aujourd'hui, donc il faut continuer comme ça. Les erreurs qu'on a faites, il faut les corriger, il faut les effacer et il faut continuer à travailler. Il faut s'appuyer sur la deuxième mi-temps, l'état d'esprit qu'on a montré. On a été tous ensemble. On a mis le cœur. Et puis voilà, après, ce qui s'est passé, ce sont des faits de match, ça arrive. Donc voilà, comme je vous dis, il va falloir être plus tueur dans les deux surfaces et pour pouvoir gagner des matchs et grappiller des points.
Des propos recueillis et traduits par nos confrères de Rhône FM. Prochain rendez-vous donc pour le FC Sion samedi prochain face au FC Lucerne.
Merci beaucoup Thierry. Prochain rendez-vous avec le sport en fin de journée, c'est ça?
Exactement.
Belle journée, au revoir.
Pareillement, merci.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. Radio Chablais, la météo.
Bonne nouvelle, semblerait que suite à cette matinée qui était plutôt pluvieuse et grise, cet après-midi, eh bien nous aurons droit à quelques belles éclaircies. Une accalmie est programmée donc pour cet après-midi. Notez toutefois que les averses vont revenir et ce, en cours de nuit. On nous parle de nouvelles averses durant cette nuit, voire même de flocons à partir de 1300 mètres, c'est vous dire. Pour ce qui est des températures, les maxima en plaine s'installeront à 12 degrés. Un peu plus haut, à 1000 mètres, on s'installe autour des 5-6 degrés, puis si on grimpe encore plus haut, entre 0 et 1 degré à 2000 mètres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous une très belle après-midi. Pour la suite, c'est principalement de la musique, entre 12h30 et 16h. Et puis à partir de 16h, c'est le retour de Cyril Gicpont. Ayez le préto, c'est la sou et plein d'autres musiques pour vous accompagner. Ciao à tous.